dans cette grande abondance de la parole de Dieu aujourd'hui et souvent pendant le temps de carême, une toute petite phrase a retenu mon attention. Cinq mots. Tu ne commettras pas de meurtre. Elle a retenu mon attention aussi à cause de l'actualité. Vous savez que les états généraux de la bioéthique sont ouverts et j'ai eu la curiosité d'aller faire un tour sur le forum organisé par l'État pour développer ces états généraux pour permettre à chacun de s'exprimer. Il y a beaucoup de domaines différents qui sont abordés dans ces forums et je me suis contenté d'un, celui de au sujet de la fin de vie. La première chose qui m'a frappé en faisant un tour sur ces forums, c'est que parmi tous les avis qui sont exprimés et qui sont très divers, il n'y a pas de débat. Le site lui-même interdit d'en avoir, non pas qu'il l'interdise formellement, mais ne permet pas qu'il y ait débat. Les avis sont donnés et on peut dire simplement si on est d'accord avec ou pas. On ne peut pas y répondre. On ne peut pas lancer de discussion. Il n'y a pas de débat. C'est un peu désespérant de voir. En même temps, ça reflète bien l'état de notre monde politique et social. La deuxième chose qui m'a surpris, mais pas étonné, hélas, c'est qu'un certain nombre de participants disent « Les références religieuses, on n'en veut pas. » Ça, c'est pour ceux qui croient qu'ils se les gardent. C'est moi qui interprète, mais c'est souvent ce que ça veut dire. Et la troisième chose qui m'a surpris, et là, je ne m'imaginais pas, j'avoue, c'est que les grands principes qui sont évoqués sont tout droit issus de la grande tradition spirituelle et théologique chrétienne. Mais les conclusions, pas toujours. Et je voudrais en donner quelques exemples. Le grand principe, un des grands principes qui est évoqué, c'est que la vie humaine est inestimable. Oh oui, combien je peux être d'accord avec ce principe-là. Mais certains font de ce principe, tirent de ce principe une conclusion. Donc, tout doit être mis en œuvre pour repousser le plus loin possible la mort. Tout. Le problème, c'est tout simplement, la mort existe. Et cette conclusion fait comme si on essayait de l'occulter. La mort existe et elle fait partie de notre vie. Bien sûr, on l'aborde pas forcément avec grande joie, mais elle fait partie de notre environnement. Je me rappelle du haut de mes 25 ans, j'avais dit à ma grand-mère qui à l'époque en avait 80, « Tu sais, grand-mère, si tu vivais aussi vieille que Jeanne Calment, pour les plus jeunes c'était la doyenne des Français de l'époque, eh bien, tu en aurais encore pour 40 ans. » Et moi, j'étais tellement heureux de pouvoir lui faire cette grande annonce. Je ne m'étais même pas rendu compte que 40 ans plus tard, j'en aurais 65. Et la réponse de ma grand-mère a été « Mon Dieu, quelle horreur !» Et j'en suis resté les bras ballants. Je me suis rendu compte ce jour-là qu'on pouvait ne pas désirer vivre éternellement sur cette terre, dans cette condition-là. Deuxième principe évoqué, la mort fait partie de notre vie. Je viens de l'évoquer. Mais cette fois-ci, la conclusion c'est, alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, quelle différence ? Cette conclusion de ce principe se retrouve dans trois autres que je vais développer tout de suite. Je laisse celui-là un peu en suspens. Je pense qu'il trouvera des éléments de réponse par la suite. Le troisième principe, c'est la souffrance est scandaleuse. La souffrance est un mal et il faut la combattre. Et au passage, nous pouvons tirer un coup de chapeau à toutes les équipes médicales qui font tant et tant de choses pour soulager la souffrance des malades. Mais la conclusion qu'il peut y avoir, c'est pourquoi ne faisons-nous pas comme pour les animaux ? Quand un animal souffre, on l'achève. Qu'est-ce qui empêche de faire ça pour des êtres humains ? Et vous savez qu'il y a tout un développement de certains intellectuels qui disent « Mais l'homme n'est qu'une espèce animale parmi les autres. Il a ses spécificités, bien entendu, mais qui ne le différencie pas plus du mouton que le chien du chat. » Alors, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais il me semble que les animaux ne pratiquent pas entre eux l'euthanasie. Lorsque l'un souffre ou est en train de mourir, en tout cas pour les animaux qui vivent en troupeau ou en meute, il est laissé et le reste s'en va. Il n'y a qu'un être humain pour imaginer que face à un animal souffrant, il faille abréger ses souffrances. Et si donc l'attitude humaine face à cette question de la souffrance et de son lien avec la mort est si différente des animaux, alors le principe est vite trouvé que l'attitude face aux animaux souffrants et face aux êtres humains souffrants n'est du coup pas la même non plus. Quatrième principe. L'essentiel, c'est l'amour. Oh que oui. Il en manque tellement autour de nous, dans notre propre cœur. L'essentiel, c'est l'amour. Conclusion, donner la mort à quelqu'un par amour n'est pas un meurtre. Un meurtre, c'est quand on veut tuer quelqu'un par haine. Alors là, je veux bien. Mais alors, redéfinissons tout. Redéfinissons ce que c'est que le meurtre. Et surtout, définissons ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Bien sûr qu'on peut tuer par amour. Un homme peut tuer sa femme par amour pour sa maîtresse. Des hommes peuvent tuer des centaines de personnes en se jetant avec un avion sur des tours par amour pour Dieu. C'est de l'amour tout ça. Mais on voit bien que c'est un amour qui cloche. L'amour, ça n'est pas si simple. Quand est-ce que je peux dire que j'aime vraiment ? Est-ce que c'est simplement le sentiment qui m'habite ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière ? Alors on voit combien l'amour est fragile. Et que le sentiment même de l'amour l'est encore plus. Comment bâtir des lois sur des choses aussi fragiles que celles-là. Et puis, dernier principe que je voulais vous présenter. C'est un peu long, hein, excusez-moi, mais c'est carême, hein, n'oubliez pas. C'est l'essentiel, une des dimensions essentielles de la vie humaine, c'est sa dignité. Conclusion. Lorsque l'état d'une personne est si dégradé que sa dignité n'existe plus, alors ça ne vaut plus la peine de vivre. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Je me rappelle d'une visite régulière que je faisais dans une maison de retraite pour la messe hebdomadaire quasiment. Et il y avait tout un groupe de laïcs qui étaient avec moi. Et il y avait une petite dame qui était toujours dans son fauteuil, quand on allait lui dire bonjour, elle ne réagissait pas. Alors je lui prenais la main, je lui disais que j'espérais qu'elle allait bien. Il n'y avait pas de réaction. Et un jour, une une des dames accompagnantes, a dit « Le jour où je serai comme ça, vous me ferez une petite piqûre. » Et une autre dame qui était présente a dit « Oh ben non, on vous aime trop. » Ou autre exemple que j'ai trouvé sur le site, une femme qui dit « J'ai eu tellement de peine à accompagner mes parents jusqu'au bout pendant des années. Ça a été tellement terrible que je ne voudrais pas être un poids pour mes propres enfants. » On voit que dans ce domaine-là, on est comme dans un miroir. On se voit soi-même. Quelle dignité alors on s'accorde en regardant les autres de cette manière-là. La question est complexe. Je ne voudrais surtout pas dire que c'est vite fait de la régler. Mais maintenant, prenons un peu de recul. Et puisque beaucoup d'intervenants refusent des arguments religieux, il faudra en trouver d'autres pour répondre à toutes ces questions-là. Et il y en a un qui est beaucoup développé dans ce qui est New Age. Alors ça fait un peu bizarre. Mais aussi dans tout ce qui est développement psychologique, le bien-être psychologique. C'est la question du lâcher prise. Dans ces théories, on nous dit l'homme qui veut tout contrôler le fait parce qu'il a peur que les choses lui échappent. Et quand on a l'impression que les choses nous échappent, ça angoisse. Or, le fait de vouloir tout contrôler angoisse encore plus. Il y a besoin de lâcher pour pouvoir enfin vivre de manière plus épanouie, tout simplement. Et on voit alors des deux grands domaines dans lesquels ce lâcher-prise peut s'appliquer. Non, les techniques ne sont pas toutes puissantes. On a besoin de lâcher un peu. Non, mon rapport à la mort n'est pas un rapport de toute puissance. J'ai aussi besoin de lâcher un peu. Et lâcher-prise, ça permet d'autant plus et d'autant mieux la rencontre de l'autre. Puisque ce désir de le contrôler, qui est aussi une tentation assez fréquente, eh bien s'atténue. Il y a une émergence d'humanité dans ce lâcher-prise. Ça serait quelque chose à développer, du point de vue simplement philosophique, mais maintenant je voudrais l'appliquer à nous-mêmes, dans notre foi, d'appeler à la rescousse notre Seigneur. Parce que ce lâcher-prise, il a quand même des inconvénients, des risques plus exactement. C'est que d'une part, quelquefois, il peut tendre au désengagement. Je lâche prise, donc je ne fais plus rien. Ou alors pire encore, à l'indifférence. Il faut que je lâche prise, donc il faut que plus rien ne m'atteigne. Et c'est là où notre Seigneur vient à notre rescousse. Oui, lâche, nous dit-il. Lâche quand tu vois que ton intelligence est trop enténébrée pour pouvoir voir tout seul les tenants et aboutissants des situations. Demande l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui sera ta lumière et qui te permettra alors de voir les choses de manière plus claire. Et même si tu vois plus clair, tu verras bien qu'en toi, la force pourra manquer pour faire ce qu'il te semblera bon. Lâche prise aussi. Demande la force de l'Esprit-Saint, alors il viendra en toi. Et on voit alors que ce lâcher prise n'est plus un renoncement à agir, mais au contraire, une demande à Dieu de venir agir en nous. Comme dit notre bon pape François, qu'il l'a dit spécialement aux jeunes, « Ne restez pas dans votre canapé, levez-vous, agissez. » Ou plus récemment, un jeune qui ne s'engage pas est un jeune à la retraite. Ainsi, ce lâcher-prise est une attitude spirituelle fondamentale, mais dans le Christ et dans l'Esprit Saint, il nous permet alors de nous redresser, mais aussi d'accepter que nous ne sachions pas tout, de prendre le risque éventuellement de nous tromper. Combien de fois nous sommes un peu paralysés de peur de faire le mauvais choix. Nous avons le droit de nous tromper. Le lâcher-prise vient aussi dans ce domaine-là. Et si péché il y a, de demander pardon pour que ce soit le Seigneur lui-même qui nous relève.